Le titre de mon message ce matin, c'est la Pentecôte des gentils. Puis là, vous dites, OK, mais moi, je suis gentil ou pas? Alors, il y a plusieurs façons de voir ça. Si on regarde à l'Évangile, est-ce que l'Évangile nous considère comme des gentils? Avant de connaître le Seigneur, pas du tout. On était des pas gentils. Parce qu'on était ennemis de Dieu. On est devenu plus aimable à cause des fruits de l'Esprit. Fait que si on parle au niveau des fruits de l'Esprit, on pourrait dire que certains sont gentils. Est-ce que vous êtes gentils? Là, vous êtes, vous n'êtes pas sûr. Prenez votre cellulaire, regardez-vous là. Est-ce que je suis gentil? C'est une question que les enfants posent à leurs amis. Hein? T'es-tu gentil, toi? Quand ils rencontrent un chien, ils leur demandent, es-tu gentil, toi? J'aimerais vous dire que dans la parole, il y a une autre façon de savoir si on est gentil ou pas. Pourquoi je dis ça? C'est que les gentils, peut-être vous avez déjà lu ça dans votre Bible, puis vous dites, c'est quoi cette affaire-là, les gentils? En fait, les gentils, ils sont appelés comme ça, en anglais on dit « gentiles », c'est toutes les personnes qui ne sont pas issues de la descendance d'Israël ou juive. Alors, savez-vous quoi? Vous pourrez dire à vos arrière-petits-enfants, à vos enfants et à toutes les générations que si vous n'êtes pas juif, vous êtes gentil. C'est une bonne nouvelle ce matin? Alors, je suis gentil, pas par les mérites de ma personne, mais l'Écriture me considère comme ça. Et en fait, ce que je veux qu'on fasse ce matin, c'est qu'on puisse regarder cette Pentecôte-là des gentils. On ne va pas voir Acte 2 ce matin, mais on va aller plutôt dans Acte 10. Et ce matin, mon cœur, c'est vraiment pas de dire si vous êtes gentil ou pas, parce que honnêtement, c'est pas ça le point ce matin, mais c'est vraiment de dire à quel point est-ce qu'on désire une rencontre avec le Saint-Esprit. À quel point est-ce qu'on aspire, est-ce qu'on a soif à une rencontre avec le Saint-Esprit. Et je veux vous partager un récit dans lequel il y a eu plusieurs rencontres avec le Saint-Esprit, et on va le voir ensemble. Si vous avez votre Bible, tournez avec moi dans Acte 10. On va être dans ce passage-là pas mal toute la prédication ensemble. Et on commence au verset 1 et on va parler d'un certain Corneille. C'est pas le chanteur. Mais peut-être que son nom est inspiré du chanteur, on ne sait pas. OK. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et dire « Corneille! » Là, vous imaginez la scène un peu. Hein? « Corneille! » Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur? » L'ange lui dit, « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu. » Il s'en est souvenu. « Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Jaffa, Césarée, 50 km grosso modo. Donc, ce n'est pas la porte à côté. Mais ici, on voit une rencontre de Corneille avec le Saint-Esprit. Et je pourrais vous parler longtemps de qu'est-ce que ça veut dire d'être un officier romain à cette époque-là et de vivre ouvertement sa foi, ou plutôt les blocages qui pourraient l'empêcher de vivre ouvertement sa foi, le fait qu'il n'était pas juif non plus. Mais ce n'est pas le thème de mon message, mais ce qu'on remarque, c'est que Corneille craignait Dieu. Corneille priait. Corneille était généreux. Il faisait des offrandes et priait sans cesse. Et là, ici, on n'est pas dans le point de dire que, ah ben là, si je donne un assez gros montant, le thermomètre monte, puis rendu à tel niveau, rencontre avec le Saint-Esprit. Tu sais, après 10 000 on rencontre le Saint-Esprit. Après 15 000, on a une vision. Si des gens vous prêchent ce genre de choses-là, de grâce, détournez-vous et allez ailleurs, OK? Comprenez? Ça va? Mais ce n'est pas de ça qui était question ici. En fait, ici, ce qui est question, c'est qu'on voit le cœur de Corneille, on voit son caractère, on voit qu'il était pieux, qu'il priait et qu'il le faisait régulièrement. Et c'est ça le thème. C'est ça le thème du message. Son contexte romain l'amène loin de Dieu, mais son cœur le rapproche. Son cœur de prière et de générosité le rapproche. Et savez-vous quoi? Dieu parle de différentes façons. Ici, il va parler à travers une vision. Dieu parle aussi par des rêves. Dieu parle aussi par sa parole, la Bible. Dieu parle par toutes sortes de façons, par une conviction forte de l'esprit, par des circonstances, par la nature, par la beauté. Dieu parle aussi par une tradition, par la prière, par les dons spirituels et autres aussi. Dieu parle de différentes façons. Quand on rencontre le Saint-Esprit, ça ne se passe pas toujours de la même façon. Dieu ne parle pas toujours de la même façon. Mais quand Dieu parle, on sait que c'est une rencontre avec l'Esprit de Dieu. Et c'est à ça qu'on aspire. C'est à ça qu'on veut aspirer. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez entendre mon cœur sur cette idée-là d'avoir soif, d'aspirer à une rencontre avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, à travers une vision, va lui dire, « Tu t'en vas là-bas, à Jaffa, proche de la mer, deuxième maison à côté du poste à gaz. » Comprenez que c'est précis, là. Il donne le nom de la personne, il donne l'endroit, il donne que c'est prêt, il donne la... Comprenez, là, que c'est pas juste un genre, « Oh, je sens qu'il faut que je tourne à droite. » Non, non, non. C'est vraiment une vision avec des instructions claires. Des instructions claires. Parallèlement à ça, le Saint-Esprit rencontre également Pierre, et on le voit dans Acte 10, verset 9. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. L'autre, c'était à 3 heures, lui, c'était à midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Hey, j'aimerais savoir une vision comme ça. J'aurais du stock pour mon barbecue. OK. C'est une blague. Mais Pierre dit, « Certainement pas, Seigneur. » Lui, il ne veut pas ça. Il dit, « Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, la deuxième fois, la voix lui parla, « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme impur. » Et je fais juste vous raconter un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, cette image-là. En fait, c'est comme s'il y a une nappe, puis tous les animaux qui sont dedans sont des animaux complètement impurs pour les Juifs. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas manger, ils ne pouvaient à peine les toucher. C'est comme si je vous disais dans l'équivalent culturel pour nous au Québec, voyez une nappe ouverte avec de la cervelle de vache, du steak de chat puis du goéland frit. Puis là, tu dis, je veux pas toucher à ça, je veux pas goûter à ça. Et Dieu dit, tu et mange. Ce que moi j'ai déclaré pur, fais-le. Qui est prêt à manger de la cervelle de vache ce matin? Si Dieu vous le disait, vous le feriez, hein? Moi, je le ferais. Ouais, j'aime ça goûter à plein d'affaires. Mais je fais juste vous donner un peu le contexte de comment Pierre se sent quand il voit ça. C'est pas juste genre, j'avais pas faim. Non, il dit qu'il avait faim. Mais pas juste ça. C'est comme s'il était en train, Dieu est en train de lui dire la grande distinction du peuple juif. Depuis toutes les époques, ils n'ont jamais touché à ça, de génération en génération. Alors lui, il est vraiment son paradigme n'est pas là du tout, là. Pour lui, c'est un empêchement complet. Vous comprenez? Mais Dieu est en train de lui parler. Dieu est en train de changer les paradigmes. Et ici, Pierre a une rencontre avec l'Esprit de Dieu, une vision ouverte, puis une conviction de changer de paradigme. On continue. Une rencontre avec le Saint-Esprit, des amis de Pierre et des amis de Corneille. On va plus loin à partir du verset 19. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, « Il y a trois hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter. C'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ses hommes, « Moi, je suis celui que vous cherchez. » Comprenez la... Imaginez Pierre, là, il est convaincu que c'est Dieu qui a parlé. Là. Il descend puis il va aller voir, « Hey, avant même qu'eux autres s'adressent à lui, hey, c'est moi que vous cherchez. » Il y a quelque chose qui se passe de puissant. Là. Comprenez, c'est pas juste... Il y a quelque chose de puissant qui est en train de se passer là. Alors, ils répondirent, « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors, Pierre les fit entrer, les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Et quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Et là encore, il y a une rencontre avec le Saint-Esprit. Et Pierre reçoit, « Hey, il y a trois gars qui s'en viennent. » Ils viennent te chercher, puis va avec eux. Comprenez-vous que c'est encore une autre parole directe de l'Éternel envers eux? Mais pas seulement ça. L'Esprit de Dieu parle aux amis de Corneille qui se pointent là et qui voient toutes les choses arrivées exactement comme il les avait entendues de Corneille. Les amis n'ont pas de révélation spéciale. Les amis entendent ce que Corneille, ils croient ce que Corneille a reçu du Seigneur. Et quand il arrive là, il y a une confirmation qu'effectivement, chez Simon le tanneur, il y avait effectivement un Pierre qui a été divinement averti à l'avance d'aller avec eux. Est-ce que vous comprenez que ça ressemble pas mal à une rencontre avec le Saint-Esprit, même si ce n'est pas une vision ouverte? Il y a des fois qu'on est comme « Seigneur, je veux que tu te révèles à moi! » Mais Dieu est en train de le faire dans ton voisin, puis il est en train de te parler à travers ton voisin, puis tout ça comme « Ça compte pas! » Et là, il reçoit cette confirmation-là. Et non seulement ça, l'Esprit de Dieu est en train de parler aux hommes qui accompagnent Pierre. Parce que Pierre, quand il y a cette rencontre-là, c'est comme « feu d'artifice », c'est comme « wow, tout est en train de s'accomplir ». Et Pierre va demander à ses amis « Hey, venez donc avec moi ». Et eux autres, qu'est-ce qu'ils font? On y va! On a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, évidemment. Et on va raconter la fin de l'histoire un petit peu plus tard. Mais je veux aborder l'idée de la soif, d'avoir soif de Dieu. Vous savez que Pierre et Corneille n'étaient pas dans un mode « Je suis à genoux, je veux une révélation du Seigneur ». Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient pieux, connectés à Dieu dans la vie de tous les jours. Ils faisaient des prières régulièrement. Et on apprend que Corneille faisait la même chose, que Corneille donnait généreusement et régulièrement au point que le peuple juif le reconnaissait. Ils étaient dans une communion avec le Seigneur qui était constante. Et à travers ce moment de marche avec Dieu, il arrive un événement spécial, il arrive une direction particulière, il arrive une conviction du Saint-Esprit, il arrive son voisin qui dit « Hey, j'ai une vision, il faut aller là, let's go, j'embarque, j'y vais. J'ai soif de voir ce que Dieu est en train de préparer pour toi et pour moi. » Ces hommes-là, et j'oserais dire que Corneille, j'oserais dire que Pierre, j'oserais dire les amis de Corneille et j'oserais dire les amis de Pierre avaient soif de voir ce que Dieu voulait faire. Vous savez, je considère que la soif ressemble beaucoup à la foi. Je vais vous expliquer pourquoi. La foi, c'est comme la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Oui? Avoir foi, hein, c'est la ferme assurance, même les choses que nos yeux ne voient pas. Puis la soif spirituelle, même la soif, c'est comme l'idée d'un désir ardent, d'être passionné, d'avoir le goût. Là, tu sais, c'est, l'idée d'avoir soif, c'est pas juste « Ah! » Un verre d'eau, ah, ma bouche, ah, verre d'eau, bouche, ah, OK, c'est le fun, j'avais soif. C'est le sens plus loin de ça, c'est vraiment cette idée-là. Tu sais, quand t'as soif, tu sais, des fois, on dit au Québec, il fait fret, c'est comme un niveau plus élevé, là. Bien, nous, au Québec, c'est tellement facile, tu rouvres le robinet, t'as de l'eau, puis là, si t'attends 5 secondes pour qu'elle soit froide, tu te dis, coudonc, qu'est-ce qui se passe avec mon robinet ici, là? Et, tous les contextes ne sont pas identiques, hein? Mais il y a des fois où est-ce que tu fais une marche, là, tu t'en vas, tu montes l'acropole des Draveurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas été. Mais tu sais, à un moment donné, tu es comme, tu y vas, puis à un moment donné, tu as vraiment soif. Puis là, tu visualises le moment où est-ce que tu vas pouvoir boire, que tu vas pouvoir t'arrêter, contempler, boire. Et il y a cette idée-là dans la soif spirituelle, qui c'est comme le désir, la passion de rencontrer celui qu'on ne voit pas. Je fais un lien entre la foi et la soif. Pourquoi? Parce que justement, cette soif-là, c'est vraiment cette idée-là de se rapprocher de lui, de connaître plus, de profiter de sa présence. La soif de Dieu, c'est de s'attendre à lui. J'aimerais te poser la question, à quel point tu avais soif quand tu es entré aujourd'hui dans l'Église? Pourquoi je dis ça? Vous savez, il y a des endroits qu'on va, peut-être vous êtes déjà allé dans votre famille, puis vous étiez comme, « Oh, ça va être long. » Jamais dans ma famille, OK? Ni dans ma belle famille, évidemment. Est-ce que vous avez déjà été dans un endroit où est-ce que ça ne vous tentait pas d'être? Qu'est-ce qui se passe habituellement dans ces moments-là? Si tu n'as pas soif qu'il se passe grand-chose, tu sais que ça va être plate, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas trouver ça plate parce que tu n'avais aucune attente, aucune foi, aucune soif que ça soit différent. Mais si tu t'en vas dans un endroit puis que tu dis « Hey, ça me tente pas trop, mais non. » Il y a des matins, là, je vais vous avouer quelque chose. Il y a des matins que ça ne me tente pas de venir à l'église. « Hi, le pasteur! » dans nos prochains projets, on a un confessionnal. Non, non, c'est tout. Et je pense que chacun d'entre nous, on a peut-être eu ça un jour où on est comme, hey, à matin, là, franchement, là, je serais resté couché, là. Et on décide d'y aller quand même. Et après ça, on décide de chanter, puis là, on se rend compte, hey, finalement, c'était juste dans ma tête, ça. On se met à louer, puis finalement, rencontre avec Dieu, parce que la soif se construit à travers le moment qu'on est en train de passer avec le Seigneur. Et bien souvent, Dieu est bon pour nous ramener à l'ordre et d'avoir un temps où est-ce qu'il y a une parole qui est exactement ce qu'on avait besoin, juste pour nous dire, hey, si tu avais soif, là. Et je fais le parallèle. Si on vient à l'église en disant, hey, ça va être plate, mais Seigneur, je suis prêt. Si tu ouvres quatre cieux devant moi, je vais t'écouter. Il y a des fois qu'on vient à l'église comme ça. Mais ici, dans ce texte-là, on voit la soif de dire, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux voir ce que tu as. Je veux voir ce que tu as en réserve. Et je pourrais même utiliser d'autres exemples de la vie courante. J'aimerais même dire que ta soif est un indicateur de l'état de ton cœur. Ça fait mal, ça. Mais ta soif est un indicateur de l'état de ton cœur. Et je vais prendre le parallèle parce qu'on n'a pas juste soif de Dieu dans la vie. Il y a des fois, on a soif de d'autres choses. Parfois, même les idoles, on peut avoir soif de ces idoles qui sont autour de nous, qui nous éloignent de Dieu. La soif de Dieu est un indicateur de l'état de ton cœur. Je vais même parler au couple ce matin. Ton anticipation, ta joie de retrouver ton époux et ton épouse parle de l'état de ton couple. Réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Rassasie-toi de ses seins, hein? C'est ça que l'Écriture va nous dire. Ah, bon, let's go! Je vais donner ton 10$ plus tard. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais ta soif est un indicateur de l'état de ton couple. Je te dirais même que ton efficacité au travail pourrait se valider avec le fait que tu as le goût d'aller travailler. Et là, il y aura sûrement une étude dans le monde du travail qui parlerait de à quel point est-ce que tu as hâte d'aller travailler. Et si tu as hâte d'aller travailler parce que tu aimes ton travail, ta productivité est probablement double de celui que ça ne tente pas d'y aller. Et là, j'exclus les lundis matins poqués. OK? Vous comprenez? Ce n'est pas de ça que je parle. OK? Je ne suis pas en train de dire qu'à tous les matins, tu es comme une gazelle qui galope pour aller jusqu'au travail. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il y a quelque chose dans l'idée de « Hey, j'ai hâte d'être là, j'ai hâte de voir les gens avec qui je travaille, j'ai hâte d'accomplir ci ou j'ai hâte de penser à ça, j'ai hâte de... » Vous comprenez? J'aimerais vous dire que la soif avec Dieu, c'est quelque chose d'important. Je ferme la parenthèse, OK? Comment est-ce que tu décrirais ta soif de Dieu? Comment est-ce que tu décrirais ça, ta soif d'une rencontre avec le Saint-Esprit? Et moi, une des choses que je vois dans ce passage-là, c'est que leur foi a été contagieuse. La foi et la soif de Corneille a été contagieuse envers ses amis qui se sont déplacés. La soif de Pierre a été contagieuse également avec ceux qui l'ont suivi. Et j'aimerais dire que si leur soif a été contagieuse, la tienne peut l'être aussi. Ta soif peut être un encouragement puissant pour celui qui est à côté de toi. Ta foi est contagieuse. Ta foi est contagieuse. Et j'aimerais que, tu sais, des fois, on le voit par rapport à nous-mêmes, mais comment est-ce que, j'essaie de le phraser, c'est pas dans mes notes, là, mais si ton voisin avait la soif que tu as pour Dieu, est-ce que tu le prendrais en pitié ou tu serais content pour lui? Si ton voisin avait ta propre soif de Dieu, est-ce que tu serais content pour lui? Ou tu serais triste pour lui? C'est une bonne question, hein? Mais dans ce récit, dans le récit qui nous concerne, ça a été contagieux de bout en bout. Et on va voir l'arrivée de toute cette gang-là à Césarée, le lieu de la destination de la maison de Corneille. Et on voit ça au verset 24 et 27. Ça veut dire ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Une gang d'assoiffés. Puis imaginez qu'à cette époque-là, tu ne vois pas la localisation de l'autre sur ton cellulaire. Tu ne sais pas s'il est à mi-chemin. Tu ne sais pas si les amis de Corneille ont trouvé Pierre ou pas. Tu n'as aucune idée de quand est-ce qu'ils vont arriver. Ça se peut qu'ils arrivent dans une journée, dans deux jours, dans une semaine, tu ne le sais pas. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'eux, là, la soif de Corneille et ce que Corneille avait vu et comment il l'a communiqué, c'était assez pour qu'il soit dans la maison puis qu'il attende jusqu'à temps que Pierre revienne. Puis il ne savait même pas s'il allait être là. La foi, c'est l'espérance, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. La soif, c'est cette assurance-là que Dieu est en train de faire quelque chose et que je ne veux pas manquer le bateau. Et voici ce qui se passe. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de la Pentecôte des gentils. Acte 10, verset 44. Pierre, et là, il rentre dans la maison, il salue et il se met à prêcher l'Évangile. Et il le prêche très bien, l'Évangile. Et voici ce qui se passe par la suite. Pierre parla encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre, ça c'est les amis de Pierre, furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? » Et il leur donna de les baptiser au nom du Seigneur. Et là, ça rejoint exactement ce que pasteur Francis disait tout à l'heure. Il ne m'a pas volé de punch, mais je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Le Saint-Esprit descend, qu'est-ce qui se passe? Il y a des baptêmes d'eau, il y a des gens qui se convertissent, il y a la foi qui est communiquée. Et là, dans ce cas-ci, il y a un débordement de puissance. Ils se mettent à parler en d'autres langues. Et là, pour une première fois, ceux qui reçoivent ce déversement du Saint-Esprit ne sont pas des Juifs dans la diaspora, mais sont des gentils. Des gens qui ne descendent pas d'aucune tribu d'Israël. Et c'est spécial parce que si on fait le parallèle entre acte 2, la Pentecôte, la Pentecôte, chambre haute, 120, entendre les merveilles de Dieu dans toutes sortes de langues, et ici, cette deuxième Pentecôte pour les gentils, ou cette Pentecôte pour les gentils, les deux, dans acte 2, on voit qu'ils attendaient dans la chambre haute. Ici, on voit qu'ils attendaient dans la maison de Corneille. Acte 2, ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer, comment ça allait se passer. Dans la maison de Corneille, acte 10, ils ne savaient pas ce qui allait se passer, puis quand ça allait se passer non plus, mais ils attendaient. Ils avaient soif. Deuxièmement, dans acte 2, le résultat, prophétie, baptême, parler en langue, repentance. Acte 10, même chose, repentance, baptême, parler en langue, puissance Saint-Esprit qui se manifeste. Dans acte 2, les gens qui ont vu ça aller de l'extérieur, ils ont fait « Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Sont-ils sous toute la gang? » Et ils étaient étonnés de ce qui se passait. Dans acte 10, qu'est-ce qu'on voit? Même les amis de Pierre qui avaient soif, ils étaient étonnés de ce que l'Esprit était descendu sur des non-juifs. À travers sa vision, le Saint-Esprit avait préparé le terrain à Pierre en disant, hey, « Est-ce que toi, ce que moi je déclare pur, toi déclare-le pas impur. » Il est en train de parler de ces gentils-là. Cette vision-là était pour lui faire comprendre que le peuple d'Israël était dans un paradigme de favoritisme juif à côté. C'était les Juifs qui pouvaient recevoir la bénédiction. C'était les Juifs dont venait la loi, les prophètes. C'est les Juifs qui allaient être bénis. Et là, quand le Saint-Esprit donne cette vision-là de ces animaux qui étaient impurs, il est en train de dire, « Hey, là, je ne te parlais pas des animaux. Ce n'est pas ce que tu manges ou ce que tu ne manges pas qui est important. Moi, je suis en train de te parler d'êtres humains. Ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Ce que j'ai déclaré pur. » Et Pierre a vécu une rencontre avec le Saint-Esprit qui a tout changé, ses paradigmes, ses idées toutes faites, et je dirais même ses préférences. Si vous aviez demandé à Pierre, Qu'est-ce que tu préfères, toi? Est-ce que tu préfères que le Saint-Esprit soit répandu sur les Juifs ou sur les non-Juifs? Je pense qu'avant cette vision-là, il aurait dit, je préfère que le Saint-Esprit soit déversé sur les Juifs. Mais Dieu est ici en train de changer ses paradigmes. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre à ce moment-ci. C'est pour ça que j'appelle ça la Pentecôte des gentils. Puis j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que si tu es un gentil, la promesse est pour toi. Si tu es gentil, puis là, je ne parle pas d'être fin, là. Je parle que toutes les nations sont appelées à suivre Jésus. Toutes les nations sont appelées à se repentir et à suivre le Seigneur. Toutes les nations sont appelées à vivre ce débordement de puissance de l'Esprit Saint qui est là non pour notre propre plaisir ou notre divertissement, mais qui est là pour impacter les nations pour le Seigneur Jésus. Amen. Et honnêtement, l'Esprit veut baptiser du Saint-Esprit sur tous les gentils, vous en faites partie. Mais je sais très bien que si vous avez vu des trucs un peu louches mis sur le dos du Saint-Esprit, ou des trucs un peu louches au nom du Saint-Esprit, vous avez peut-être une soif distante du Saint-Esprit. J'utilise le mot « soif », mais avec le qualificatif « distante ». Vous n'êtes pas les seuls à avoir besoin de changer de paradigme. Parce que Pierre a eu besoin de changer de paradigme, puis c'était quelqu'un, là, le gars. Là. Pierre, c'était quelqu'un rempli du Saint-Esprit, là, c'est quelqu'un, Pierre. Là. Mais même rempli du Saint-Esprit, il avait besoin que le Seigneur change certains paradigmes. Et si je veux même partager un témoignage, puis je n'entrerai pas dans les détails, mais le Seigneur a eu besoin de changer des paradigmes dans ma vie pour que j'aie réellement soif d'une rencontre avec le Saint-Esprit. Je vous en nomme quelques-uns. Quel paradigme l'Esprit veut-il changer en toi? Le premier paradigme, c'est que la puissance du Saint-Esprit est pour les autres et pas pour toi. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Si on pense que c'est un mérite, vous avez raison, c'est pas ça le point. Mais le Saint-Esprit est déversé sur ceux qui ont soif. C'est pas une décoration pour les plus méritants. C'est pas une médaille d'honneur. C'est pas parce que tu as donné 10 000 piastres ou pas dans toute ta vie que là, tu as la médaille de ça. C'est pas ça. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui en ont soif. Il faut changer notre paradigme là, du mérite. Puis, ça, c'est pour les pasteurs. Ça, c'est pour... Non, pas en tout. C'est pas vrai, ça. Deuxième paradigme. La puissance du Saint-Esprit est dangereuse ou bizarre. Voici ce que j'aimerais vous dire. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus. Est-ce que l'Esprit de Jésus fait des choses surnaturelles? La réponse, c'est oui! Est-ce que c'est bizarre? Est-ce que Jésus est bizarre? La réponse, c'est non. On veut ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui vient de Dieu. L'autre paradigme que peut-être qu'il y a besoin de changer, c'est que la puissance du Saint-Esprit n'est pas nécessaire. Et c'est pas vrai non plus. On a besoin du Saint-Esprit pour que justement ce débordement-là soit contagieux autour de nous. Ce débordement-là soit contagieux dans notre entourage, dans notre église, à celui qui est assis à côté de vous. Là. Ah, vous vous rappelez de ma question, hein? Si la personne à côté de vous avait la même soif de Dieu que vous, est-ce que vous le prendriez en pitié? Est-ce que vous seriez triste pour lui ou vous seriez content? J'ai accepté le Seigneur quand j'avais 10 ans. Peut-être même avant, mais... Le premier moment où est-ce que je m'en souviens clairement, c'est plus à 10 ans. J'ai été baptisé du Saint-Esprit plus qu'une décennie plus tard. Et voici ce que j'ai remarqué dans ma propre vie qui a changé. Est-ce que j'aimais Jésus? Absolument. Mais voici ce qui, pour moi, a changé. Un enthousiasme d'être dans sa présence. Ça, je l'ai senti puis je l'ai vu dans ma vie. J'ai vu une accélération, une plus grande occurrence de dons spirituels, de miracles autour de moi. J'ai pas juste dit « Hey, je vais être rempli pour faire des miracles », pas en tout. C'est venu naturellement. J'ai vu dans ma vie une créativité et une inspiration que je n'avais pas avant ça. Des choses qui se passaient, des liens dans ma tête que je n'avais jamais faites, et que là, ça coulait, puis non seulement ça coulait, mais je voyais la bénédiction sur les gens qui m'entouraient. Ça, ça a changé pour moi. L'assurance, je dirais même l'audace, ça a changé également. Ça s'est amélioré. L'amour de la mission de Dieu envers les autres et l'amour de mon prochain, pfiou, ça a monté de même. Pour moi, est-ce que l'Esprit fait la même chose en tout le monde? Ça lui appartient. Je suis pas le Saint-Esprit. Je le contrôle pas. C'est lui qui fait l'œuvre. Et j'ai commencé à prier dans d'autres langues. Et quand je manque de sujets de prière, quand je ne sais plus quel problème dans le monde il faudrait que je prie, je me mets à prier en langue, puis le Seigneur me dirige vers une personne, me dirige vers une situation, me dirige vers un morceau de son cœur. Alors, dire que c'est pas nécessaire, fine. Peut-être que c'est pas nécessaire pour avoir ton ticket pour aller au ciel, mais franchement, si notre cœur à nous, là, c'est juste de survivre jusqu'à temps que Jésus revienne, là, c'est pas la vie chrétienne, ça. C'est pas la vie chrétienne. On n'est pas appelé à juste survivre pour un moment en disant « Seigneur, il faut que tu reviennes tout de suite parce que je suis plus capable. » Voilà. Non, on est appelé à vivre. Vivre par l'Esprit, marcher par l'Esprit, avancer, voir, oui, des échecs, mais voir des victoires. Et avancer dans le Seigneur. Et je ne suis pas en train de dire que la seule façon de vivre victorieux, c'est d'être rempli du Seigneur. Ce n'est pas ce que je dis. Je fais juste dire que notre objectif comme chrétien, là, c'est pas juste de survivre à nos épreuves. C'est d'avancer de gloire en gloire. C'est d'être transformé de gloire en gloire pour ressembler à Jésus-Christ. Et ça, ça se fait alors qu'on marche avec l'Esprit. Ça, c'est sûr et certain. Alors, moi, ce que je veux faire ce matin, je veux ouvrir. Et là, il est quand même assez tôt, puis c'est génial comme ça. Ce que je veux qu'on fasse, et ce que je vous appelle, c'est pas dire « Venez en avant, puis essayez de parler en langue. » C'est pas ce que je dis pas en tout. Moi, j'appelle chacun à dire « Je veux rencontrer le Saint-Esprit. » J'ai soif du Saint-Esprit. Et si peut-être dans votre vie, vous dites « Ah! Il me semble que cette soif-là, je l'ai déjà eue, puis je l'ai pu. » Ben, priez avec moi. « Seigneur, mets du sel sur ma langue pour que je sois assoiffé de toi. » Pour que j'aie le goût de te rencontrer, que plutôt d'être esclave de la peur, je veux m'avancer, m'approcher de toi pour rencontrer mon papa dans le ciel, pour rencontrer ce précieux Saint-Esprit, ce doux Saint-Esprit, pour rencontrer l'Esprit de Jésus. Jésus a dit de lui-même, « Je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos en moi. » Je ne parle pas de moi, c'est Jésus qui parle, OK? Vous comprenez? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et j'espère vous insuffler, j'espère que c'est un peu contagieux. Mais moi, je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste parce que depuis le début de la semaine, bien, depuis mercredi, j'ai participé à plusieurs rencontres de prière. On a cherché le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a répondu à des prières. Et moi, je veux vous communiquer cette soif-là. Que ce ne soit pas une soif distante, mais que ce soit une soif profonde de rencontrer le Saint-Esprit et de le laisser agir comme lui le souhaite. Comme lui le souhaite. Comme lui le souhaite. Est-ce qu'on peut courber la tête, fermer nos yeux? Seigneur, nous savons que tu es là. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie pour une soif qui est communiquée, une soif de te rencontrer, une soif d'avancer, une soif, Seigneur, de marcher par l'Esprit, de vivre par l'Esprit et d'avancer par l'Esprit. Seigneur, tu ressuscites la soif de ceux qui sont enterrés. Seigneur, tu ranimes, Seigneur, les fleuves d'eau vive qui ont peut-être été teintus par des blessures, par des épreuves, par peut-être des gens qui ont dit des choses qui n'avaient pas d'allure. Seigneur, tu ressuscites ce qui a besoin d'être ressuscité ce matin, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, ce matin, je veux te rencontrer. Seigneur, ce matin, je veux t'ouvrir mon cœur. Je veux, Seigneur, que tu vois la soif qui est en moi de te rencontrer. Seigneur, tu bénis chacun. Et alors qu'on va faire de l'avant de l'autel un lieu de prière, un lieu où est-ce qu'on t'exprime notre soif. Seigneur, fais ce que toi seul peux faire, je te le demande, au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui a mal dans l'épaule ce matin, je vous invite à vous approcher, j'aimerais ça prier pour vous ce matin. Priez pour que Dieu puisse vous guérir. Alléluia.